Bon, je pense qu'Emma Lanero va nous rejoindre dans, d'ici quelques minutes. On va démarrer cette table ronde autour de l'exotisme, des imaginaires et de l'exotisme. Encore une fois, mille excuses pour les petits soucis techniques. On va essayer de faire du mieux possible. N'hésitez pas, hein, si vraiment vous ne nous entendez pas assez, à nous le signaler. On va donc voyager autour du monde dans cette table ronde. On va aller découvrir à travers différents continents et différents auteurs des manières de vous faire voyager à la fois dans la réalité et puis dans l'imaginaire. Et je crois que justement peut-être le plus symbolique de tout cela parmi nous aujourd'hui, alors je vais vous présenter les auteurs parce que comme on a plus de chevalet avec les noms, etc. On va donc aller en Afrique avec Mike Resnick et on parlera d'imaginaire africain, mais à travers un biais peut-être assez inattendu. Peut-être qu'on verra comment Mike réagit à ça, peut-être pourquoi le choix de la science-fiction. On ira au Japon avec Claire Crust, dans un Japon qui n'est pas tout à fait réaliste non plus. On ira à Hong Kong. Alors là, par contre, c'est plutôt l'inverse qu'avec Claire. C'est plutôt au contraire ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on est quand même si on est dans du merveilleux et de la fantaisie, on est quand même dans un Hong Kong qui est très proche de ce qu'il est en réalité. Et puis avec Emma Lanero, on ira en Amérique centrale, on ira du côté du Guatemala en particulier, même si l'action se déroule aussi également au Venezuela et aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on se focalisera un peu plus sur la civilisation maya. On va donc commencer avec Mike Resnick. Pouvez-vous nous expliquer, Mike, pourquoi vous avez eu envie de nous parler de l'Afrique, mais non pas en faisant des romans historiques, des romans de littérature généraliste, mais en faisant de la science-fiction?
I feel like I've answered some of these questions yesterday on a panel, but we'll do it again. Africa offers 51 separate and distinct examples of the deleterious effects of colonization on both the colonizers and the colonized. And I think anybody here would agree that, one, if we reach the stars, we're going to colonize them, and two, if we colonize enough of them, we're going to come into contact with an intelligent alien race. And Africa gives us 51 beautiful examples of how not to go about it.
J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à ces questions hier, mais peu importe, ça me fait plaisir de les aborder de nouveau avec vous. Donc, nous avons en Afrique, ce qui m'a intéressé, c'est que nous avons en Afrique 51 exemples de colonisation et des effets délétères de la colonisation, tant pour les colonisateurs que pour les colonisés. Et donc je me dis que si un jour nous allons explorer les étoiles, nous finirons bien par en coloniser quelques-unes. Et je pense que si nous rencontrons des espèces intelligentes sur ces étoiles, nous recommencerons le même processus de colonisation. Donc je trouvais qu'on avait des exemples à notre porte.
Also, you try to create, as a science fiction writer, believable alien societies. And Africa has some that are totally alien to me, at least. Kenya, which is one of the more advanced African countries, has 43 different languages. And not one of those languages had a word for wheel as recently as 1900. I don't have to look any farther to come up with alien societies for my work.
En science-fiction, on crée des mondes qu'on essaie de créer, enfin que ce soit des mondes crédibles. Et il suffit de regarder la situation au Kenya. Donc c'est un pays d'Afrique qui pour moi est parmi les plus avancés. Et il s'avère qu'au Kenya, il y a 43 langues et qu'aucune de ces langues ne contenait un mot pour désigner une roue en 1900. Donc je trouve qu'on n'a pas besoin de regarder bien loin pour trouver des sociétés qui soient des sociétés aliens en fait.
Alors j'ai peut-être affiné la question, parce que je vous ai demandé pourquoi la science-fiction, mais peut-être pourquoi sur un continent comme l'Afrique, on aurait peut-être imaginé plutôt que vous alliez vers la fantasy, par exemple?
Well, I have done fantasy as well as science fiction, but Africa seems to me to have so many serious problems that if I'm to suggest solutions or suggest ways to avoid those problems when we reach the stars, it almost has to be science fiction, because fantasy would let me pull a magical solution out of a hat, and I'm not interested in doing that.
J'ai déjà fait de la fantaisie aussi, mais je trouvais que les problèmes en Afrique sont d'une telle ampleur, d'une telle gravité, que si on veut trouver des solutions, chercher des solutions, la science-fiction nous apporte plus de réponses que la fantaisie. Je pense que si je projette ces problèmes ensuite sur l'exploration et la colonisation des étoiles, il faudra automatiquement que ça devienne un problème qui sera décrit en science-fiction, qui sera analysé en science-fiction. Donc malheureusement, je trouve pour moi que la fantaisie m'aurait permis de sortir les solutions d'un chapeau, et je pense que c'est pas plausible dans le cas de l'Afrique.
On va partir en Asie maintenant pour aller faire un tour au Japon avec Claire Crust. Pour un premier roman, Les Neiges de l'Éternel, chez ActuSF. Alors, j'ai précisé en introduction que c'était un Japon... rêver, idéaliser, fictionnaliser finalement.
Oui, exactement. Alors en fait, je me suis surtout énormément inspirée donc, de la culture, de l'architecture, des vêtements, des thématiques comme par exemple la calligraphie. Mais je ne voulais pas être dans le carcan en fait, de l'histoire et de la politique. Parce que quand j'ai commencé à écrire cette histoire, en fait, j'étais en première tout simplement, et je m'intéressais assez peu à l'histoire. Et j'ai imaginé justement une histoire, une narration qui n'avait pas sa place dans un Japon historique. C'est vraiment l'esthétique, l'onirisme que je ressentais en regardant les films, les séries. J'ai grandi par exemple avec les Miyazaki, et c'est ça que je voulais retranscrire plus qu'une histoire ou qu'une politique.
Et c'est plus un Japon féodal, hein. C'est
oui.
Pas le Japon contemporain.
Alors, ça correspondrait à peu près à l'époque Edo. Pour en dire plus, c'est une époque qui se situe entre 1600 et fin 1800 à peu près. Et c'est une époque, donc Edo en fait c'est le nom ancien de Tokyo, et c'est une époque féodale dont je me suis énormément inspirée au niveau donc de l'architecture et de la culture, un petit peu quand même si au niveau de la politique, puisque à l'époque donc il y avait un empereur, mais cet empereur comme aujourd'hui d'ailleurs avait un rôle surtout symbolique. Il n'avait aucun pouvoir politique, et ce pouvoir était détenu par le shogun, qui avait découpé le Japon en fiefs, chacun dirigé par un daimyo. Et ici dans le livre, dans la première histoire, en fait, l'héroïne qui s'appelle Yuki, une jeune fille qui part pour essayer de sauver son frère, est justement fille de daimyo, et son père doit quasiment toujours aller chez le shogun pour lui obéir, pour faire la guerre, etc.
On va revenir évidemment sur ces histoires, puisque c'est aussi une des particularités du roman de Claire. Et puis on va rester en Asie, mais cette fois on va quitter le Japon pour la Chine, puisque maintenant Hong Kong est désormais rattaché à la Chine, puisque Hong Kong est le cadre des 81 frères de Romain Ducier, roman qui était en lice pour le prix Imaginal, hein, rappelons-le, du roman francophone. Et... Bah là, alors, comme je le disais peut-être en introduction, c'est vrai que par rapport à Claire qui idéalise le Japon, ou qui en fait un décor fictionnalisé, là, c'est moins le cas. Parce que Hong Kong, finalement, le Hong Kong tel qu'il existe, fait finalement partie, pas seulement du décor, mais carrément de l'histoire.
Alors oui, puisque de toute façon, moi je suis dans un cadre contemporain. Mon roman se passe là, à notre époque, hein, c'est du fantastique contemporain, de l'urban fantasy, comme on dit. Donc oui, j'ai pris la Hong Kong telle qu'elle existe actuellement, c'est-à-dire cette cité qui est à la fois extrêmement moderne, tournée vers l'avenir, la finance, une sorte de petit paradis libéral dans une Chine communiste qui laisse la liberté à ce pays tant que ça lui rapporte de l'argent, qui est également très tiraillée par les anciennes traditions chinoises, donc qui sont toujours très croyants, très superstitieux. Donc effectivement, comme on disait, ça a été rattaché à la Chine, mais ça a été une colonie anglaise pendant plus d'un siècle. Donc ils sont également un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est vraiment une cité qui a la croisée des chemins en Asie. Et là-dessus, moi, j'ai greffé le fantastique, c'est-à-dire que j'ai repris les croyances chinoises, j'ai repris les croyances taoïstes, bouddhistes, leurs bestiaires, donc des esprits renards, des esprits serpents, des rois dragons, des fantômes, des démons, tels que les Chinois, eux, les voient, les conçoivent, donc leur folklore, leur légende, afin d'instiller un surnaturel natif, d'une certaine façon, dans cet Hong Kong qui... En fait, c'est presque Hong Kong, l'élément non exotique dans ce roman, puisque tout le côté surnaturel, c'est vraiment très chinois, et Hong Kong, c'est la cité qui est presque occidentale, et donc c'était assez intéressant de faire ce mélange, parce que ça permettait aussi que le lecteur, qui n'est pas forcément familier avec l'Asie, les grandes cités asiatiques, puisse se rattacher un peu à quelque chose qu'il connaît, puisqu'en plus, le cinéma de Hong Kong est assez populaire en Occident, en France, dans quelques exemples, donc il y avait un décor qui pouvait sonner un peu familier. Mais dès qu'on y entre, dès qu'on pénètre dans ces petites ruelles, dans ces petits quartiers qu'on connaît moins bien, et puis qu'on va demander un talisman à un vieux marchand avec une grande barbe blanche qui s'avère être un esprit serpent qui vous escroque un petit peu parce que vous êtes un humain crédule, ben là on rentre de plein pied dans cet imaginaire chinois, une porte voilà, sur un autre monde, sur une autre fantaisie, sur un autre imaginaire.
Et puis on finit ce premier tour de table avec Emma Lanero. On va partir au Guatemala, on va partir surtout auprès de la civilisation maya, avec un regard un petit peu différent peut-être de ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on a été souvent focalisé sur ce fameux calendrier maya et cette fameuse date qui obsédait tout le monde, de la fin du monde, du 21 décembre 2012, telle que certains l'avaient décrété, entre guillemets, ou pensaient l'avoir traduite. Là, ce n'est pas du tout l'objet du livre. On revient plutôt, au contraire, à des origines de l'histoire et de la mythologie maya.
Alors, pour d'abord préciser le contexte, j'ai vécu en Asie, jamais en Amérique du Sud. Donc j'ai vécu en Chine, je suis profondément influencée par la philosophie taoïste qui se ressent dans le roman. Après, j'ai beaucoup de voyages intérieurs. Je discutais avec un éditeur il y a deux jours qui me disait « Mais vous êtes allée en Amérique du Sud ?» Je dis « Non, non, je travaille d'après photo. »« Ah, comme Hergé !» Et après, il m'a dit « Mais vous êtes allée où ?» J'ai dit « j'ai vécu en Chine. »
Ah, ça.
Et la lumière fut. Et le son avec. Ah oui, vas-y, profite, ouais. On ne sait pas combien de temps ça va durer, alors on en profite.
Le mien ne fonctionne pas.
Si, c'est bon.
Excusez-moi.
Excuse.
Je disais, cet éditeur me demandait si j'avais été en Amérique du Sud, si j'avais pu en retranscrire vraiment l'atmosphère spéciale. J'ai dit non, je travaille vraiment d'après photo. Et je voyage beaucoup à l'intérieur, c'est ce que m'a appris mon expérience chinoise, je suis très contemplative en fait. Et après il me dit, mais vous avez donc vécu à l'étranger un peu? J'ai dit oui, en Chine. Ah, aussi comme Hergé, vous êtes la fille cachée d'Hergé. Donc je pense que pour tout ce qui est littérature de l'imaginaire, donc je voulais commencer par ceci, le fait d'avoir été sur place est un plus, mais n'est pas forcément une obligation. Quand on respecte, et je suis également une grande admiratrice de Gabriel Garcia Marquez, et je trouve que le style foisonnant de cet auteur reflète bien ce qu'est la réalité socio-économique du pays. Alors, pour ce qui est des Mayas, moi j'ai fait un passage à l'école du Louvre, donc j'ai été un peu initiée aux différentes époques historiques et culturelles, avec plutôt une spécialisation en art océanien et africain. J'ai été très intéressée par cette civilisation, mais pour en prendre le contre-pied. Dans mon roman, je propose une explication fictionnelle de la fin de la civilisation maya, donc qui est provoquée par une sphère mystérieuse qui provoque des catastrophes naturelles quand elle entre au contact de sang humain. Donc il se trouve qu'un jeune enfant trouve cette sphère et il est après sacrifié à l'un des solstices, donc on lui arrache le cœur, on le présente devant la foule. Le sang du cœur humain tombe sur la sphère qui provoque une énorme catastrophe naturelle qui éradique toute la civilisation. La sphère est ensuite cachée, redécouverte au milieu du XXe siècle, donc c'est le petit côté Indiana Jones du roman, puis à nouveau cachée par un jeune chaman. Il se trouve qu'à la fin du XXe siècle, un collectionneur véreux en entend parler et veut la retrouver, donc mes deux jeunes héros, dont une apprentie chamane, se mettent en quête de la retrouver pour la mettre à l'abri. Bon, ça ne se termine pas forcément très bien, puisque mon source d'inspiration à la base était aussi de donner une explication fictionnelle du cyclone Katrina à la Nouvelle-Orléans, donc je vous laisse imaginer ce qui peut se produire au cours du roman. Par contre, c'est vrai que mon expérience en Chine a beaucoup influencé mon style littéraire. Et c'est vrai que j'explique dans la postface de ce roman plusieurs concepts, dont le symbolisme, le chamanisme et le taoïsme, puisque je revendique un syncrétisme d'influence et j'ai vraiment été profondément marquée en tant qu'adolescente par tout ce qui est mouvement symboliste, tant poète que ce qui était pictural. Voilà.
Cette fois, la lumière est vraiment vue. Est vraiment vue. Mike Resnick, vous avez évoqué une anecdote qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Infernal Comedy, celle de cette roue donc, qui n'a pas d'équivalent, qu'on ne peut pas expliquer, en tout cas qui n'a pas de mots dans les langues kenyanes. Parlons justement de ce gros ouvrage qui est en fait une trilogie rassemblée en un seul ouvrage, où vous nous racontez... comme vous le disiez tout à l'heure, trois cas particuliers sur les 51 qui sont disponibles sur le continent africain.
Well, the reason I did was because this isn't working.
C'est bon.
Oh, it is? All right. The examples are so very different. In Uganda, I think I said this before too, everybody has heard of Idi Amin. He was a terrible, terrible man. He put a statue of Hitler in the center of the town square. He killed about 250,000 Ugandans when he was president, and even ate one of his children. Not a nice guy. But he was succeeded by a Dr. Milton Obote, who killed even more than Amin. And Obote was succeeded by a General Tito Okello, who killed more than Amin and Obote put together. What kind of society lines the streets cheering wildly for three consecutive genocidal maniacs? That's what makes it science fiction and not fantasy, because I have to deal with that.
Wow. Donc oui, j'ai choisi trois exemples différents de colonisation en Afrique. J'en ai parlé également hier, mais ça me fera plaisir d'en parler de nouveau aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez Idi Amin en Ouganda. Bien, si vous le connaissez, vous saurez que quand il était président, il a tué plus de 250 000 Ougandais. Il a même mangé un de ses propres enfants, pour vous dire. Ensuite, ce monsieur a été suivi par le docteur Milton Obote, qui lui a tué encore plus d'Ougandais que Idi Amin Dada. Et ces deux-là ont été à leur tour suivis par Tito Okello, qui lui en a tué à lui tout seul autant que les deux précédents présidents. Et ils ont été élus et applaudis par leurs concitoyens, tous ces gens-là. Et donc je me dis, quelle sorte de société peut applaudir aussi chaleureusement des dictateurs génocidaires comme ceux-là? Et pour moi, c'est un exemple de société alien, s'il en est.
Alors justement, question, alors là pour le coup de lecteur presque plus que de modérateur. Quand on lit l'Infernal Comedy, on est dans un roman de science-fiction. Est-ce qu'il faut l'accepter tel quel? Ou est-ce qu'il faut quand même, lorsqu'on connaît peut-être un peu mal l'histoire du Kenya, l'histoire du Zimbabwe et l'histoire de l'Ouganda, est-ce qu'il faut quand même aller un petit peu faire des recherches pour bien comprendre ce que vous nous racontez?
No. In fact, the reason I wrote these as science fictional histories instead of real African histories is because this way I would not have experts in Africa arguing with me about how I interpret the events. So this is entirely my view of the way these things happened.
Pourquoi j'ai choisi la SF plutôt que le roman historique ou plutôt que l'histoire d'Afrique? Eh bien, c'est assez simple, c'est que je voulais donner moi ma propre vision de la situation, ma propre interprétation de la situation en Afrique, sans être contestée par des universitaires qui auraient été spécialistes de la région. Et c'est pourquoi j'ai choisi la SF.
Claire Crust, dans ce Japon dans lequel vous nous emmenez, alors vous nous faites rencontrer une galerie de personnages, puisqu'on a en fait 5 histoires en une seule dans ce roman, et vous nous faites rencontrer une galerie de personnages qui, justement, sont tous un peu archétypaux de ce Japon dont vous nous parlez.
Oui, oui, alors je pense que je l'ai fait aussi d'une manière un peu inconsciente, donc... Je vais essayer de ne pas spoiler en parlant des personnages. Un lecteur me demandait tout à l'heure si j'allais spoiler tout à l'heure. Donc je vais essayer de ne pas le faire. Le premier personnage, donc, c'est Yuki, une jeune fille qui part à la recherche d'un guérisseur pour essayer de sauver son frère. Alors, je pense que c'est le personnage le moins justement archétypal vis-à-vis du Japon. Ce n'est pas un personnage type japonais, plutôt un personnage type de fantasy, puisque c'est une jeune fille qui est une sorte de quête initiatique pour sauver son frère, mais une quête également dans laquelle elle va énormément évoluer, qui est en rapport aussi à moi, puisque j'étais encore très jeune quand j'ai commencé cette histoire, et qu'évidemment je me cherchais personnellement. Et ça marche ou pas ?
Normalement, oui.
Oui, oui. Donc le deuxième personnage, en revanche, est lui beaucoup plus archétypal. Romain parlait tout à l'heure des fantômes, de tous les esprits chinois. En fait, le Japon a été énormément influencé par toute cette mythologie, tout ce folklore. Et le fantôme en fait donc partie. Fantôme, donc yurei en japonais, yu sombre et rei l'âme. Selon quoi, une fois que la personne est morte, l'âme peut reposer en paix, mais si elle a vécu une mort violente, si elle a d'énormes regrets, elle peut rester dans le monde des vivants. Alors évidemment, j'ai quelque peu dévié sur certains points, mais on va rester sur un personnage vêtu de blanc. Donc le blanc, c'est la couleur funéraire, avec de longs cheveux noirs. Ce type de fantôme, on le retrouve d'ailleurs dans des films assez connus comme The Ring ou The Grudge, si vous avez vu. Donc c'est vrai que c'est un personnage assez archétypal. Après, ce que j'ai vraiment essayé de travailler, c'était surtout sa psychologie, sa personnalité, la manière dont il réagit assez cyniquement au fil du temps. Donc c'est un fantôme qu'on voit sur une période de 150 ans à peu près, à plusieurs étapes. Comment il évolue, comment il gère sa solitude, parce qu'en fait il est lié à un endroit, il ne peut pas partir. Ça aussi c'est inspiré, alors c'est aussi un fait qui peut être occidentaux, mais c'est aussi inspiré de la mythologie japonaise, que généralement les fantômes sont attachés à l'endroit où ils meurent. Pour ce qui est du reste des personnages, c'est vrai qu'on retrouve par exemple une courtisane qui peut faire penser aux geisha, même si c'est un terme que j'ai choisi de ne pas utiliser, puisque nous en Occident on a énormément de stéréotypes vis-à-vis des geisha, et je ne voulais pas que le lecteur en lisant le livre se dise « Ah oui, oui, c'est comme mémoire d'une geisha ». Non, pas forcément. Ici justement on se détache de ça. Et encore une fois, c'est surtout une question de... J'ai voulu vraiment travailler la personnalité et la manière dont ce personnage réagit à ce qui lui arrive et évolue. Je n'ai pas trop parlé des autres personnages parce que sinon je vais spoiler.
Pas de souci. Lisez le livre, c'est encore mieux.
Voilà.
Romain, là par contre on peut parler du personnage central, il n'y a pas de problème, on ne va rien dévoiler. On a un exorciste qui intervient. Alors justement, est-ce que c'est... une totale création, ou est-ce que c'est inspiré, là encore, de mythes, de légendes, de personnages qu'on croise finalement dans cet univers de mythes et légendes chinoises?
Alors le personnage, effectivement, il appartient à ce qu'on appelle les Fatsi, en cantonais, les Fangchi en mandarin, qui sont les magiciens taoïstes, pour simplifier, c'est-à-dire tous ceux qui font de l'alchimie, qui font de l'exorcisme, de la divination, du feng shui, beaucoup de branches de magie asiatique. Et lui, c'est l'avatar moderne de ces personnages qui existent encore. Comme j'avais dit justement à une conférence hier, les Chinois sont toujours très croyants dans leur tradition, dans leur folklore. Ils ont ce qu'on appelle une religion populaire, qui est un syncrétisme de taoïsme, de bouddhisme et de confucianisme, et parfois même d'anciennes croyances animistes, qui peuvent venir d'autres parties d'Asie, donc ils se nourrissent. Ces personnages s'inscrivent naturellement dans ce décor, puisque les Chinois eux-mêmes sont toujours croyants dans tout ça. Le personnage ne détonne pas, puisque même actuellement, vous allez à Hong Kong, il existe des devins, il existe des géomanciens, ce sont des métiers parfaitement praticables, qui n'ont pas d'aura d'escroquerie ou de charlatanisme.
Si je puis me permettre, on voit d'ailleurs que quand on emploie le mot exorciste, comme ça, au débeauté, on le reçoit avec notre vision occidentale. Donc on imagine quelque chose d'assez particulier. Or, quand on le voit travailler au quotidien, finalement, la lutte contre des monstres absolus, ce n'est pas forcément son quotidien.
Exorciste en Chine, c'est celui qui va réguler entre le monde des vivants et le monde des morts, puisque le monde des vivants est yang, le monde des morts est yin, c'est-à-dire les deux pôles du taoïsme. Le problème, c'est quand il y a des fantômes, justement, voilà, qui s'attardent dans notre monde, eux sont des sensibles, donc ils apportent de la perturbation. Et le rôle du fatsi, donc de l'exorciste chinois, c'est de les aider à passer dans notre monde, de découvrir quels sont leurs regrets, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours présents parmi les mortels, et c'est les aider à passer, donc pas forcément d'une manière violente. L'exorcisme en Chine peut très bien être un rituel d'apaisement des âmes, de façon à faciliter ce repos. Et le gros, effectivement, fait un petit peu dans...
Il est prestataire de service, quoi.
C'est ça, il est prestataire de service. Alors, moi, la différence, c'est que ce personnage a vraiment des pouvoirs magiques. Je veux dire, c'est du fantastique. Donc, il n'y a pas de doute dans le roman. Je ne joue pas sur l'ambiguïté. Est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs ou est-ce que c'est la crédulité des gens? Non. Il utilise des talismans, il utilise de la magie, son épée peut tuer des démons, enfin c'est vraiment...
Il a un flingue génial,
j'adore. Voilà, il a un flingue qui tire...
J'ai commandé sa panoplie au Père Noël, moi, parce que je trouve qu'il a une besace qui est absolument géniale.
C'est ça, parce qu'en Chine, le bois de saule est sacré, puisque Bouddha a atteint l'éveil sous un saule, donc c'est un bois béni qui permet de tuer les démons, de repousser les mauvais esprits. Et traditionnellement, les exorcistes chinois utilisent une épée en bois de saule pour pourfendre les démons. Et ce héros, lui, utilise un pistolet avec des balles à tête en bois de saule. Pour, voilà, c'est le côté de John Woo, plus moderne. Il sort ses deux flingues et quand il y a du zombie, il les aligne. Quoi. Mais également, ce personnage, à nouveau, pour faciliter l'identification du lecteur occidental, c'est un archétype du détective de l'occulte tel qu'on peut le connaître dans l'urban fantasy américaine, dans Dresden Files ou ce genre de choses. En plus, il a même un prénom occidental, puisque tous les Hongkongais ont un prénom anglo-saxon, hein, Jackie Chan, John Woo, etc. Donc tout le monde voit à peu près. Donc le héros s'appelle Johnny, prénom fort occidental s'il en est. Mais par contre, il est très Hongkongais, très chinois dans l'âme, de par sa formation de magicien chinois, et du fait aussi que c'est typiquement Hongkongais, c'est-à-dire qu'il est individualiste, il est solitaire. Il vit sur une île, il a sa place dans cet univers très libéral finalement. Et à un moment il explique que s'il ne s'allie pas avec d'autres exorcistes, c'est pour pouvoir toucher la récompense pour lui tout seul, quoi, quand il est embauché, pas avoir à partager avec des alliés, même si des fois il est obligé de le faire quand il est dépassé. Donc le personnage est à la croisée, comme Hong Kong. C'est vraiment un personnage auquel le lecteur occidental peut s'identifier, parce que c'est un archétype d'enquêteur de l'occulte. Mais c'est un magicien chinois qui connaît ses traditions, qui vit selon elles, et qui est un citoyen de Hong Kong, typique de la Hong Kong actuelle.
Et Malanero, on vient d'expliquer plein de choses, et puis on est sur cette question de l'exotisme, et il y a quand même... Alors on va parler évidemment de ce qui fait cette part d'exotisme dans le roman, mais on a aussi la confrontation finalement à travers le livre, à travers certains personnages, de la rencontre entre cet Occident qui nous ressemble en quelque sorte et qu'on connaît mieux sans doute que la culture de l'Amérique centrale, et puis justement ces mythes et légendes mayas.
Alors moi je dirais plus peut-être une confrontation, une rencontre de deux mondes entre les deux personnages principaux, Keith qui est un jeune voyou irlandais qui sort de prison, qui se retrouve dans un deal d'armes qui tourne très mal, et qui se retrouve en pleine jungle, kidnappé. Il rencontre alors Kaya, dont le frère jumeau dirige une bande d'Indiens qui mène la guerre aux orpailleurs illégaux. Alors ça se passe au Venezuela, le début du roman, ensuite au Guatemala, pour tout ce qui est la partie quête initiatique et recherche de la sphère. Et Kaya a été élue par les esprits pour devenir chamane. Et pour son frère jumeau également, mais il refuse cette destinée. Alors, il y a vraiment un parallèle, je rebondis sur ce que Romain disait. Le chaman vit à l'extérieur du village, c'est le tiré entre le monde des vivants et le monde des morts, puisque justement, quand il y a une maladie, c'est qu'il y a très souvent un esprit d'un mort qui rôde. Donc le chaman a ce côté un petit peu, il est craint, il est respecté, mais pas vraiment estimé, il est à l'extérieur. Donc c'était intéressant d'avoir la confrontation de ces deux mondes au travers des deux jeunes personnages principaux.
Qui effectivement vont devoir allier leurs efforts. Oui. L'un, on va dire justement, qui est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus... qui finalement ne croit pas vraiment ce qu'on lui raconte.
Alors, au début, il n'y croit absolument pas. Ça provoque quelques heures avec Kaya, qui est très à l'écoute de tout ce qui est ambiance, tellurisme aussi. Le roman parle. Je dirais que le personnage principal du roman est la nature, avec toutes les vibrations qu'elle envoie. La sphère est vue un peu comme un instrument vengeur de la nature sur les humains qui la détruisent. Et Kaya est vraiment à l'unisson avec la nature, qui se le devient au fur et à mesure. Et c'est vraiment, un roman qui nous place vraiment dans notre position d'infériorité par rapport à la terre, à la nature, chose qu'on a tendance à oublier, qu'on se prend un peu pour les maîtres de tout ce qui nous entoure.
Mike, on a parlé beaucoup pour l'instant avec vous d'histoire de l'Afrique. Alors, c'est évidemment une composante très importante de ce que vous faites. Mais comment vous intégrez justement la culture africaine, les traditions qui sont très importantes, les religions africaines également, dans ce que vous faites en matière de science-fiction? Et comment est-ce que vous articulez ça par rapport à l'intervention, là pour le coup, des humains, ça ne change pas, en tout cas de l'Occident?
No, should I? Yeah, okay. The Africa I'm writing about, as I say, is an Africa seen through my particular vision. If there are things that I disagree with about their history, I leave them out. That's why it's science fiction and not African history. But there are so many things there that beg you to write science fiction. For example, what would you do if you owned a herd of cattle and there was some pest that was bothering it, some insect? You dip them, you talk to your vet, you do something like that. Well, in Uganda, they had a problem with tsetse flies. And tsetse flies are carried by wild animals, and eventually they get off them and they land on cattle if cattle are nearby. So instead of dipping the cattle, which made sense, they declared open season for hunters on all their wild animals. They killed over 1 million of them, and far from getting rid of tsetse, a number of animals that were still carrying tsetse fly ran, because they were scared or wounded, thousands of miles away and spread it throughout the rest of the continent. I put it to you that this is very, very legitimate grist for science fiction's mill.
Alors, effectivement, pour ce qui est de mon intérêt pour l'Afrique, je me donne... en fait, j'ai choisi la SF, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour donner mon interprétation, ma vision des choses et mon point de vue. Alors... c'est pour ça que j'ai choisi la science-fiction et non pas le roman historique. Ainsi, je vais vous donner un exemple. Que feriez-vous, vous, si un insecte nuisible s'attaquait au bétail? Vous vous occuperiez du bétail, vous les enduiriez de potions susceptibles d'éloigner l'insecte en question. Mais il y a eu une infestation de mouches tsété en Ouganda. Et la mouche tsété, en fait, connaît ses débuts auprès sur les animaux sauvages. Il se transmet ensuite au bétail, aux animaux domestiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en Ouganda? Eh bien, ils ont déclaré chasse ouverte sur les animaux sauvages et ils ont tué plus d'un million de bêtes. Et ce qui est arrivé après, c'est que les bêtes qu'ils n'ont pas tuées se sont enfuies ou elles ont fini par propager la mouche tsetse à tous les animaux sur l'ensemble du continent. Donc, c'est ce qui est arrivé en Ouganda. Et pour moi, ça, c'est un exemple vraiment de comportement alien, de comportement qui relève de la science-fiction.
When you train yourself to think like a science fiction writer, and that's what science fiction writers do train themselves to do, you start seeing ways to science fictionalize the simplest, most ordinary things. One day I read the statistics on habitat destruction in Africa, And remark to my wife that, you know, one of these days, the only reason you'll go there will be to see a wild rabbit, because that's all there will be left. And that became part of a science fiction story about habitat destruction. And it won me more awards than any other story I've ever written. It was called Seven Views of Olduvai Gorge. It's won 17 awards, all because one day I wondered what would happen if there was nothing left but a rabbit.
En fait, quand on se développe en tant qu'auteur de SF, les choses les plus banales finissent par nous inspirer. Ainsi, un jour, je lisais un article sur la destruction de l'environnement en Afrique. Alors, je me suis retournée vers mon épouse et je lui ai dit, attends voir, un jour, il ne restera plus que des lapins sauvages en Afrique si ça continue comme ça. Et donc là, mon imagination s'est emparée de cette possibilité. Et j'ai écrit un roman SF fondé sur cette idée de départ qu'il ne reste plus que des lapins sauvages en Afrique. Et j'ai remporté 17 prix. C'est le roman le plus primé de SF aux États-Unis. Ça m'a valu 17 prix pour ce roman. Donc au départ, j'ai tiré cette idée d'un article de journal. Donc je pense que quand on se développe en tant qu'écrivain de SF, on prend ses idées un peu partout.
One other thing I just want to say that if you look at a rabbit or you look at a country like Kenya or Japan or China and you write what you see, you may be a very fine writer and you may be able to fictionalize it, but you're not writing science fiction.
Et en fait, ce que je voulais ajouter pour conclure, c'est que vous pouvez regarder un lapin ou alors le Kenya ou le Japon et la Chine et faire un roman sur ces sujets, mais ça ne fera pas nécessairement de vous un auteur de SF.
Okay. Claire Crust, on l'a dit, 5 histoires. Alors évidemment, c'est toujours très compliqué de parler de votre livre à chaque fois. Excusez-nous, hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est toujours un peu délicat. On a une construction très particulière avec ces 5 histoires qui font un peu un faisceau d'une certaine manière. Et puis on retrouve à chacune d'entre elles un élément qui finalement vient un peu nous rappeler cette culture, ces traditions, à travers les personnages, mais à travers également ce qui leur arrive. Ne serait-ce que commencer par Yuki, puisque on est dans une période un peu de décadence, on peut dire ça comme ça.
En fait, donc Yuki est une jeune fille de noble de Daimyo, et la décadence de sa famille part à partir du moment où son grand frère donc, tombe malade.
Parce qu'il n'y a plus de succession possible.
Voilà, c'est ça. En fait, au Japon, avoir un fils, pour d'ailleurs encore en partie aujourd'hui, c'est un peu le cas, avoir un fils, c'est vraiment faire la succession, avoir quelqu'un pour reprendre le nom, c'est vraiment très très important. Le fait d'avoir une fille, alors c'est important aussi, puisque c'est une fille qu'on va marier et qui peut renforcer les alliances, mais ce n'est pas une fille qui va reprendre le nom. Ce n'est pas une fille qui va apporter de l'argent, au contraire, elle va en coûter. Du coup, une fois que le fils est malade, on arrive à un moment où la famille, tout simplement, n'a plus de moyens de transmettre son nom. Et le problème, c'est que la fille part également aussi pour retrouver son frère. Et j'allais spoiler.
C'est-à-dire qu'elle... elle est assez ambiguë finalement, Yuki, au moins dans le début du roman, puisque elle agit autant pour son frère que pour elle.
Oui, bien sûr, puisque si elle va sauver son frère, ce n'est pas seulement pour sauver son frère, c'est simplement qu'elle a une sorte de complexe du grand frère, et elle adore absolument son frère, et c'est aussi une forme de reconnaissance, comme son frère, c'est disons la figure importante, si elle le sauve, si aussi on fera attention à elle, tout simplement.
On ajoute à tout cela, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est les décors qui sont très importants également, que ce soit ce château dans lequel se passent certaines des histoires. Il y a également ces montagnes qui sont très importantes aussi. Vous évoquiez Mémoire d'une geisha tout à l'heure. La vraie différence aussi, c'est que Mémoire d'une geisha, c'est très urbain. Là, on est plutôt effectivement dans un Japon beaucoup plus rural, avec voilà, ces aspects-là. Là aussi, il y avait matière à jouer pour l'auteur de fantasy que vous êtes sur le décorum.
Oui, alors je me suis énormément inspirée donc, de la réalité, puisque je trouvais que l'architecture et que les décors étaient un élément vraiment important qui permettait d'instaurer cette atmosphère un peu contemplative que je souhaitais faire. Puisque, par exemple, on a des lignes au niveau des châteaux, on a une couleur beaucoup de blanc, le papier de riz, les dessins, etc., qui sont vraiment... Enfin, qu'on n'a pas du tout ici, on ne les a pas.
Et, quoique dans certains hôtels, des fois, on se pose la question de savoir si le mur n'est pas en papier de riz, mais enfin bon, ça c'est...
Oui, bah alors là...
c'est autre chose.
C'est encore autre chose. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire.
Oh, pardon. Mais non, mais on parlait des différences, effectivement, des choses qui, pour nous, occidentaux, paraissent...
Oui, et je voulais dire aussi, par exemple, le château dont on parle, et dont le château de la famille, c'est le château... Je me suis énormément inspirée du château de Himeji, qui est donc un vrai château japonais, qui est un château entièrement blanc, absolument magnifique, si vous voulez aller voir des photos. Et justement, tous les châteaux ne sont pas blancs, mais justement, puisque moi, il y a aussi le côté neige qui recouvre tout, cette pureté qui, en fait, cache justement pas mal d'impuretés.
Finit par être très angoissante, même
oui,
à un moment.
C'est vrai.
Ah oui, je trouve, ouais. Sur certains. Enfin, voilà, c'est pareil, c'est difficile. On en parlera après. Pas le dire ici, désolé. Mais non, voilà, c'est vrai qu'il y a, effectivement ce côté un peu pesant de la neige, d'une certaine manière.
Oui, je pense que c'est aussi l'histoire associée à la neige qui fait ça. La neige, c'est aussi l'hiver et c'est aussi les arbres morts. D'ailleurs, quand on retourne dans le château donc où vivait Yuki, on retrouve toujours ces arbres morts, ce jardin dévasté, avec rien tout simplement. Alors qu'au contraire, les jardins japonais, c'est des cerisiers, c'est des fontaines, c'est énormément de choses. La décadence permet aussi d'être vue grâce à cet hiver qui revient.
Romain Duissier, dans Hong Kong, on a cette alternance assez incroyable où d'une rue à l'autre, finalement, on passe d'un monde à l'autre. Si je me souviens bien, le roman commence dans un endroit assez particulier, qui est une espèce... Alors, je vais peut-être dire des bêtises, vous allez me reprendre, vous allez nous expliquer ça un peu plus en détail, mais c'est une espèce d'avenue et finalement, il n'y a que des chapelles tout du long, c'est ça?
Oui, alors en fait, effectivement, le héros débute sa première... première aventure qu'il connaît dans ce livre, dans le plus important temple de Tin Hao, qui est la déesse tutélaire de Hong Kong, qui est la protectrice des marins et des pêcheurs, et Hong Kong étant un port, c'est le deuxième plus grand port d'affaires chinois, c'est vraiment la déesse tutélaire de cette ville. Et donc oui, il se rend dans ce temple pour prier, pour rappeler sur lui la bénédiction de la déesse, puisqu'il va aller... affronter quelques créatures un peu puissantes, donc il a besoin de toutes les divines possibles. Et ce bâtiment existe totalement, c'est pas du tout une invention. Effectivement, à Hong Kong, on passe totalement d'un monde à un autre en passant dans une rue. Contrairement au roman de Claire qui est plus ancré dans le passé, le mien étant moderne, mondialisation oblige, toutes les grandes mégalopoles finalement se ressemblent. Sur Terre. Mais certaines gardent quand même leur petite particularité. Et Hong Kong, le héros, pendant qu'il se promène dans les rues, donc c'est un narrateur à la première personne, c'est lui qui vous guide, il va passer de rue, de quartier d'affaires avec des grands immeubles façon Manhattan en verre, en acier, et d'un coup il va tourner et il va vous emmener dans un petit temple taoïste qui existe réellement, que je n'invente pas, donc vraiment à ce niveau-là, où viennent prier des hommes d'affaires qui vont conclure des contrats à plusieurs millions de dollars HK et qui vont quand même consulter un devin pour savoir si la décision est bonne ou pas. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur leur superstition. Et ces bâtiments sont extrêmement importants. Ils ont des monastères bouddhistes, dont un qui se trouve sur l'île de Lantau, où il y a le Bouddha de bronze géant, qui est une attraction touristique très très célèbre. Ils ont le temple de Tin Hao, qui est pour le coup, qui a des dizaines de temples dans toute la ville, plus ou moins petits, hein. Il y en a des très grands. Il y en a, c'est juste des hôtels au bord de la route. Il y a le temple du grand immortel Wong, qui est quasiment tout un quartier qui s'est développé autour, qui est un peu le quartier ésotérique en fait. C'est un peu comme si vous alliez à Lourdes, mais version chinoise. Vous allez avoir des gens qui vont vous vendre des talismans, des reliques de Bouddha, un bout d'orteil de Bouddha qui vous apportera la chance. Des devins qui vous font des tirages de Yiking dans la rue. Enfin, c'est un quartier qui est absolument extraordinaire. puisque dedans se mélange à nouveau cette tradition, ce folklore, avec le libéralisme commercial le plus agressif, en fait. Puisque les camelots vont essayer de vous vendre des choses, leurs services en tant que qu'alchimistes, des potions d'immortalité.
On voit d'ailleurs que même lui, il a parfois du mal avec ce qu'on lui réclame par rapport à ce dont il a vraiment besoin, parce qu'on le voit se ravitailler en talisman, et il a l'impression de même lui de se faire arnaquer. Quoi.
C'est ça, voilà. Lui, il est obligé aussi d'aller dans des échoppes et de négocier quand il a besoin de véritables écailles de dragon, pour le coup, pour fabriquer ses instruments magiques. Donc il connaît quand même les bonnes adresses, mais il faut raquer parce que ceux qui vendent, ils en vivent, et voilà.
Je pose la question quand même. Les restaurants et les gargotes aussi, il y a des vraies adresses ou...
Alors le restaurant où il va, je l'ai inventé. Oui, Hong Kong est la ville du monde où il y a le plus de restaurants par habitant. Les gens mangent tout le temps dans les restaurants.
On mange très très bien dans le livre. Ça donne très envie. Emma Ladéran, on est en particulier dans la deuxième partie du roman, dans cet endroit très particulier. Parle-nous de ces grottes, dans lesquelles se noue un peu l'intrigue. Là, on va vraiment parler du décor. Parle-nous de ces grottes dans lesquelles vos personnages mènent leurs recherches.
Alors, les grottes de la Candelaria, dans la jungle du Pétel, sont des grottes sacrées qui sont citées dans le Popol Vuh, le livre des Mayas, le livre sacré. C'est très important, le monde souterrain, l'importance de l'eau. Et je trouve que le côté angoissant de la plongée sous terre se prêtait particulièrement à une montée de la tension narrative.
Il y a ce décor qui est assez majestueux, mais qui est, où on se sent tout petit d'un seul coup devant cette immensité naturelle. Alors on retrouve le côté très Indiana Jones aussi.
Mon œil fasciné également, parce que moi je suis extrêmement fascinée par ce monde souterrain, et je crois que je n'aurais jamais le courage de jouer l'apprenti spéléologiste. Mais tout ce qui est piscine naturelle, sous terre...
Faut dire qu'en plus, vous ne leur facilitez pas les choses.
Non, il y a des bêtes mystérieuses qui rôdent.
Et l'eau monte, alors vous voyez.
Et l'eau monte, oui. Il y a des rapides. Non, c'était vraiment cette alliance. Et je pense aussi que là, il y a un syncrétisme d'influence, puisque c'était l'influence de l'importance de l'eau en Chine. Et l'eau qui est reliée au dragon. Et en fait, j'ai un peu transposé. C'est vrai que c'est très syncrétique, ce roman. Et c'est d'ailleurs un roman qui a été écrit il y a 10 ans. Donc... qui reflète bien tout ce qui était mes intérêts de l'époque. Et je suis partie en Chine il y a 15 ans. Donc c'est vraiment... et j'ai retrouvé d'ailleurs, c'était très, très étonnant, entre tout ce qui est cosmogonie chinoise et tout ce qui était l'imaginaire maya, l'imagerie... je ne vais pas y arriver. Il y avait des points, des ressemblances en fait.
Alors, moi, j'aimerais que vous nous parliez, si vous le souhaitez, parce que vous allez me dire ça. D'un seul coup, l'action s'arrête par moment, et puis on adopte un point de vue totalement différent, qui est une espèce de caméra subjective assez bizarre, où on se retrouve embarqué à travers, alors pas forcément le regard d'ailleurs, mais parfois à travers l'évolution, est-ce que je veux dire de personnages ? Oui, de personnages quand même, ils en font partie, mais qui sont quand même un peu spéciaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Alors, mon idée principale était de faire de la nature, vraiment le personnage principal du roman. Et qui représente mieux la nature que le monde animal ? Parce que nous ne sommes que des animaux, excusez-moi. Plus ou moins évolués, ça c'est à discuter. C'est mon côté un petit peu... j'aime pas trop les humains, je le dis. Donc, il me semblait très intéressant, pour avoir un côté de travelling cinématographique, d'opérer les changements de point de vue de personnages par le biais des animaux, notamment dans une scène où j'utilise une mouche, où nous avons un personnage dans une cabine dans le bateau, et un personnage qui la rejoint qui est dans le couloir, et qui s'arrête, il est happé par un mur de force, puisque le personnage de Kaya fait des est en méditation et on voit, on décrit le Kiss qui s'arrête, la mouche passe autour de Kiss, passe par le trou de la serrure et va autour du corps de Kaya qui est en méditation et qui ressent les énergies qui se dégagent de son corps en méditation. Voilà, après son corps devient un rocher autour duquel la mouche se plaît à virevolter. Et je trouvais ça vraiment très intéressant pour replacer vraiment, c'est le cœur du roman, que l'importance de la nature et aussi de faire se questionner de quelle façon traite-t-on les animaux, de quelle façon traite-t-on la nature, certainement pas de façon respectueuse.
Mike Resnick, on a bien compris quel objectif vous suiviez dans la dénonciation de la colonisation et de ses effets néfastes, mais il y a quand même quelque chose de frappant quand on lit l'Infernal Comedy, par exemple, c'est que vos extraterrestres, il n'y a pas un clivage très net entre les gentils et les méchants, finalement.
Well, again, that's because it's fiction. There's not that much of a border. Let me give you an idea how these things come to be. My wife and I were in Egypt. And our guide had been a professor at Cairo University. He spoke four languages. That was the minimum qualifications for a guide. And at one point he remarked about how very grateful he was that we were listening to him, because his last group of tourists, who had been living in mud huts when his people created these phenomenal monuments and pyramids, they were much too busy talking about the point spread for a football game that they wanted to bet on than to listen to him. So I thought about it for a while, and I wrote a science fiction story called The 43 Antarian Dynasties, and it won a Hugo. And what I did was just took that situation and science fictionalized it. I wrote it in the first person of an alien guide whose race had controlled the galaxy when we hadn't even evolved into humans yet. And here he was serving a rude, rude tourist and his wife for tips. And as I say, it won a Hugo. So as long as you have something that moves the reader, if you can science fictionalize it, you don't lose anything in the translation.
Oui, je pense que comme c'est de la fiction, on a le droit de faire une frontière très, très ténue entre les bons et les méchants. Et c'est toujours très amusant. Mais j'ai un autre exemple à vous donner. En fait, un jour, j'ai fait un voyage en Égypte avec mon épouse, et notre guide était un professeur d'université qui parlait quatre langues, et il m'a dit qu'il nous était très reconnaissant de l'écouter ainsi nous raconter l'histoire de son pays, parce que le groupe qu'il avait eu auparavant, c'était des gens d'un pays où l'on vivait encore dans des cabanes en terre battue à l'époque où on construisait les pyramides en Égypte. Et lui, il était quand même dépendant des touristes pour les pourboire et gagner sa vie. Et donc, je me suis dit que c'était quand même très intéressant. Et je suis rentrée chez moi et j'en ai fait un bouquin de science-fiction. Et j'ai gagné un prix Hugo pour ce bouquin. Parce que pour moi, en fait, c'est vraiment très important, en fait, très agréable de tirer mes idées de scènes comme celle-ci. Et dans mon bouquin, donc dans le bouquin de science-fiction, j'en ai fait un guide de cette expérience. J'ai fait un guide alien qui fait visiter la galaxie à des touristes un peu impolis, mais il a vraiment besoin de leur pourboire pour vivre. Et il essaie quand même de leur faire comprendre que son peuple contrôlait la galaxie à une époque où l'être humain n'existait même pas encore.
J'ai eu la sensation, en vous lisant, alors vous allez peut-être me dire que je me trompe, mais que finalement, on a d'un côté les humains, grosso modo l'homme blanc, qui est ultra équipé, qui détient, en tout cas de son point de vue, les clés de la civilisation, qui a la puissance militaire, etc. Et puis en face, on a des peuples extraterrestres qui sont, pardonnez-moi le mot, mais bon, ça va le mérite d'être clair, qui sont des peuples plutôt primitifs. Et en même temps, on a l'impression à chaque fois que les humains sont les plus naïfs des deux et que finalement, ils se font entourlouper à chaque fois.
Well, the aliens, if they're to make any sense at all, have to have certain human characteristics. Some may be warlike, some may be deeply religious, some may be other things, but if you don't give them human traits, it's very hard for the reader to empathize with them or to care about them. And if that's what you're writing about, you of course want the reader to care.
Alors pour ce qui est des aliens et des extraterrestres, il est très important quand même de leur donner des caractéristiques humaines. Ça peut être sur le plan de la religion, ou alors on peut en faire des guerriers, mais le but du jeu, c'est de leur donner quand même quelques traits humains qui réussiront à émouvoir le lecteur, à toucher le lecteur.
Yeah, we're a society that over 2,000 or 3,000 years, from the Roman Empire to Nazi Germany to radical Islam, has done enough terrible things that if you're going to write about humans and aliens, it's best to make the aliens a little more innocent so that you can figure out how we should have done things.
En fait, il faut bien voir sur sur notre histoire depuis 2,000 or 3,000 ans qu'on a connu des choses comme l'Empire romain, on a connu le nazisme et puis maintenant l'extrémisme islamiste. Et donc je pense que c'est intéressant de faire des extraterrestres, des aliens, des êtres un petit peu naïfs, un petit peu plus naïfs que les êtres humains, simplement pour, par comparaison, expliquer l'évolution de l'être humain.
Ben voilà, on va terminer là-dessus puisqu'il est 14h. Donc il va falloir laisser la place à la suite des débats. Et vous allez pouvoir maintenant poursuivre, pourquoi pas, les discussions sous la bulle du livre avec nos auteurs. Aller approfondir un petit peu tout ce qui a pu être raconté au cours de cette table ronde. Et puis, si vous le souhaitez, également acheter les livres et les faire dédicacer pour pouvoir peut-être découvrir un peu plus largement ces romans qui, je vous le promets, vous dépayseront beaucoup. Merci beaucoup.
Ah, super. Le cinabre, en fait, c'est l'équivalent pour eux de la caféine hyper puissante.